Merci d'écouter l'Alpha 10-13 de Radio Alpha. Je suis maintenant avec Fernando Ferreira. Bonjour.
Bonjour, monsieur Caramayo.
Vous êtes directeur associé d'un cabinet de conseil en recrutement, expert reconnu en développement économique, et vous publiez aux éditions Colibri ce livre qui se nomme « Les Portugais de France, histoire d'une migration discrète et courageuse ». Un livre de 500 pages, nous allons en parler de ce très beau travail. Mais d'abord, j'ai envie de vous demander pourquoi ce livre ?
Alors, il y a deux raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre. La première, c'est parce que je voulais rendre hommage à cette génération d'hommes et femmes extrêmement courageuses qui ont eu le courage de partir du Portugal pour changer de trajectoire de vie, pour aider aussi les gens qui restaient au Portugal. Hein. Il faut pas oublier cet aspect-là de l'immigration portugaise. Et... parce que je fais partie aussi de ces gens qui pensent que quand on arrête de raconter les histoires, on finit par les oublier. Donc il y avait aussi un devoir de mémoire que je humblement auquel je voulais contribuer.
Vous écrivez dès les premières pages de ce livre, je vous cite, « L'histoire de l'immigration portugaise en France est à bien des égards une histoire discrète. Elle ne s'affiche pas avec éclat dans les manuels scolaires, n'apparaît que sporadiquement dans les médias et reste souvent absente des grandes chroniques nationales. Pourquoi, à votre avis ? »
Alors je pense que c'est l'ADN de l'immigration portugaise qui est discrète. Si vous me permettez de faire peut-être un petit rappel sur le contexte des années 50, 60, 70, là où il y a eu une immigration massive de la part des Portugais qui sont venus en France et dans d'autres pays, la discrétion était une qualité. Quand les Portugais sont arrivés en France, on leur a souvent demandé de travailler, de faire des choses que d'autres refusaient de faire d'ailleurs. C'était extrêmement délicat, extrêmement difficile, des conditions de travail très difficiles. Eux ont accepté de le faire, ils ont d'ailleurs très bien fait, donc ils travaillaient très bien, et avaient pour habitude d'être dans cette discrétion. Et c'était à l'époque une vraie qualité, parce que à travers les différentes rencontres que j'ai pu faire, beaucoup me disaient que parce que justement ils travaillaient, qu'ils ne se plaignaient pas, et qu'ils travaillaient bien, quand ils allaient voir leur patron et qu'il leur disait « j'ai un frère qui aimerait venir en France, j'ai un cousin qui aimerait venir en France, est-ce que s'il vient, vous l'embauchez ?» Et la réponse était souvent « s'il est comme toi, oui, plutôt deux fois qu'une ». Donc la discrétion était une vraie qualité. Alors après, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est aussi, je pense, une preuve d'intégration réussie. Il y a eu... de très beaux succès portugais en France. Il y a de très beaux succès portugais en France. On parle un peu moins de ces succès-là que d'autres succès, mais j'aimerais citer quelqu'un que j'ai rencontré dans le cadre de mes recherches pour ce livre, qui m'a dit de manière très spontanée, j'ai retenu cette phrase, on ne dit pas ce qu'on fait en fait, on fait, tout simplement. Et moi, j'ai trouvé ça très symptomatique, en fait, qui est un vrai résumé de leur philosophie de l'époque, qui est restée dans l'ADN des générations qui ont suivi. Ceci étant, je me permets de faire une petite parenthèse avec une actualité un peu plus récente française. Il y a eu des élections municipales en France il y a quelques semaines. Moi, dans ma petite ville française, il y a eu quatre listes. Dans chacune de ces quatre listes, il y avait des représentants de la communauté portugaise. Donc, elle est discrète, mais elle est présente. Il y a cette discrétion, mais il y a cette présence qui existe. Et c'est important de signaler.
Qu'est-ce que l'immigration portugaise a apporté à la France ?
Alors, d'un point de vue strictement économique, une manœuvre abondante, à coût réduit, pour pas dire bas coût, et dans une situation d'après-guerre, comme dans les années 50, 60 ou même 70, la France était à reconstruire. Donc évidemment, il y a cette première dimension qui est strictement économique. Et puis ensuite, il y a un enrichissement culturel que le Portugal a aussi apporté. Portugal est un peuple joyeux, qui aime... faire la fête, qui aiment se retrouver autour de valeurs comme alors le travail bien sûr, mais comme la famille. Donc ils ont contribué aussi à recentrer un certain nombre de choses là-dessus. Donc il y a un apport économique, il y a un apport culturel, il y a un apport sociologique. Moi, il y a de très beaux destins aujourd'hui. Enfin, les générations actuelles sont pas évidemment celles des années 50, 60 ou 70, ne serait-ce que professionnellement. Mais je pense qu'on a apporté un peu de ce côté latin, de ce côté portugais à la culture française. Je trouve ça très bien.
Et alors j'ai envie de retourner la question, on pose moins cette question, mais c'est une question que vous vous posez dans cet ouvrage, c'est l'une des parties de votre chapitre 10. Qu'est-ce que la France, elle, a apporté aux Portugais?
Elle a apporté une perspective, une trajectoire de vie différente. Là encore, si vous me permettez de faire un petit retour historique sur les années 50, 60, 70, qui encore une fois sont la période d'immigration massive au Portugal, il y a une dictature, il y a une oppression qui est forte. Et il y a énormément de pauvreté également au Portugal. Pour parler de l'histoire un peu plus personnelle de mes parents, mon père avait 7 frères et sœurs. Ma mère en a, enfin, ils étaient 3 enfants du côté de ma mère. C'était pas simple de donner à manger à tout le monde. Donc il y avait une vraie pauvreté, une vraie misère qui existait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la France a permis à un moment d'être un objectif, alors je vais pas dire un rêve, mais en tout cas un objectif, et a offert une perspective. Ça, c'est la première dimension. Et puis, lorsque les Portugais sont arrivés en France, en sachant que c'est loin d'être simple de partir du Portugal à cette époque, c'est très compliqué, le voyage en lui-même est une aventure. D'ailleurs, beaucoup de gens en parlent assez spontanément dès qu'on leur parle de l'immigration, ils parlent du voyage en particulier. Et lorsqu'ils arrivent en France, la France offre du travail, c'est génial, offre la possibilité de gagner l'argent, et ça c'est encore mieux, si vous me permettez cette petite allusion. Et puis elle offre la possibilité à ces personnes qui avaient pas grand-chose au Portugal de commencer à se construire avec un petit peu d'argent, un petit peu de perspective, un petit peu, je vais pas utiliser le terme de confort parce que ça viendra beaucoup plus tard, mais en tout cas des conditions de vie qui se sont quand même un petit peu améliorées, même si encore une fois, à l'arrivée en France, c'était très compliqué, les bidonvilles de Saint-Denis par exemple.
Bien sûr.
Donc c'était extrêmement compliqué. En tout cas, il y avait une perspective. Et d'ailleurs, si vous me le permettez, les Portugais qui arrivaient en France à cette époque avaient un objectif qui n'était pas vraiment dissimulé, qui était de repartir au Portugal. C'est la raison, et là c'est un apport que la France a aussi apporté aux Portugais, ça leur a permis, à travers les économies réalisées, grâce au travail bien évidemment, d'acheter un bout de terrain au Portugal, d'y faire construire pour certains une maison, ou d'acheter un appartement, parce que la présence en France de la communauté portugaise, tout du moins à cette époque, était perçue comme une transition, un point de passage, mais n'était pas forcément définie comme quelque chose de définitif. Donc la France a permis d'avoir une trajectoire, une perspective, alors je ne vais pas dire un rêve, mais en tout cas des objectifs pour pas mal de gens qui étaient dans la difficulté au Portugal.
Et on va revenir sur cette éternelle question de l'émigrant, la question du retour, mais continuons pour le moment à interroger le rapport à la France. Vous écrivez dans votre ouvrage « L'émigration portugaise est marquée par l'endurance et la volonté de réussir dans un pays étranger, souvent hostile ou indifférent ». Pouvez-vous nous détailler ces propos? La France a-t-elle été un pays hostile ou indifférent à l'égard des Portugais?
Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que quand on demande aux Portugais qui ont connu cette période-là, quelle a été la dimension ou la qualité de l'accueil, tous ont des exemples très précis de personnes qui les ont aidés. Et dans ces personnes-là, alors il y a des Portugais qui étaient déjà là et qui aidaient à l'intégration, mais il y avait aussi des Français qui, contents de voir arriver cette immigration de travail, étaient très contents de les accueillir. Donc, plus que de l'hostilité, l'indifférence est le vrai mot. C'est-à-dire que les Portugais n'ont pas dérangé tant qu'ils faisaient les travaux que les autres ne souhaitaient pas faire. Les Portugais n'ont pas dérangé tant qu'ils restaient quelque part à leur place. Si vous me permettez de peut-être un peu raccourcir les choses, mais tant qu'on reste dans le bâtiment ou tant qu'on reste femme de ménage, on connaît tous une Portugaise sympa ou un Portugais sympa. Là où l'hostilité s'est un peu plus manifestée, ou en tout cas, il y a eu un changement de point de vue, c'est quand les Portugais ont commencé, en effet, à travers leur travail, à économiser un peu d'argent, à finalement pouvoir s'acheter une voiture, pouvoir s'acheter une maison au Portugal ou en France, un appartement en France, ou faire construire. Où là, il y a quelque part, et c'est un peu naturel aussi, un angle de vue qui a varié du côté français. Maintenant, dans la grande majorité des cas, et si on doit donner une tendance, l'accueil français a été de qualité, il y avait un accord, un intérêt commun à ce que ça se passe bien, les Portugais venaient chercher du travail, la France avait du travail à proposer, donc à partir de là, tout était réuni pour que ça se passe très bien.
Mais dans les premières années, vous le rappeliez, la plupart des Portugais qui arrivaient notamment en région parisienne logeaient dans des bidonvilles.
Ah, c'est des conditions absolument horribles. Moi, j'ai l'exemple de ma mère. J'ai pas besoin d'aller chercher très loin pour pouvoir en parler. Ma mère qui est arrivée en France très jeune, elle avait 17 ans. Elle venait d'un petit village au Portugal. Elle arrive, c'est de la boue, c'est des cabanes en tôle. Il fait froid l'hiver, il fait chaud l'été. Elle me racontait que régulièrement elle croisait des rats qui ont la taille des chats qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est horrible. C'est horrible, mais il y a aussi de la solidarité qui, pour faire face à ça, va se mettre en place au sein de la communauté portugaise. Des gens qui vont aider à l'accueil, des gens qui vont aider à ce que ce soit finalement des conditions de plus en plus agréables, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Donc oui, les conditions d'arrivée étaient particulièrement difficiles. D'ailleurs, si vous me le permettez, quand vous parlez avec des gens qui ont connu ces instants d'arrivée en France et ces instants difficiles, il n'y a pas de nostalgie dans ce qu'ils racontent. Ils sont fiers d'avoir traversé ça et de quelque part en être sortis. Mais il n'y a pas de nostalgie, enfin, il n'y en a aucun qui vous dit c'était le bon vieux temps, hein, même s'il y avait de la camaraderie, de l'entraide, même si c'était festif aussi, hein, il y avait de bons moments à partager bien évidemment. Mais personne ne vous parle de nostalgie, personne regrette ce temps-là, ce qui montre bien que c'était très difficile à l'époque.
Depuis le début de notre discussion, on parle surtout d'émigration et d'émigrants, mais vous dans ce livre, vous utilisez majoritairement le terme de migrant. Et de migration, c'est d'ailleurs dans votre titre, Les Portugais de France, histoire d'une migration discrète et courageuse. Expliquez-nous ce choix. Habituellement, on parle d'émigration portugaise, pas de migration.
Moi, je parle de migration parce qu'en fait, quelle qu'elle soit, c'est une migration. En fait, on a migré du Portugal jusqu'à la France. Alors après, on appelle ça émigré, on appelle ça immigré. C'est une migration. Quand aujourd'hui, on parle des migrants qui viennent de pays africains ou autres, ce sont des gens qui ont un point de départ et qui ont envie d'arriver à un point d'arrivée. Et donc, c'est une migration. Il n'y a pas de, je fais pas de différence entre ce qu'on entend aujourd'hui. D'ailleurs, c'est marrant, on parle plus d'immigration, on parle de migrants maintenant. C'est un terme qui est devenu un peu plus contemporain, mais que je trouve par moments un petit peu péjoratif dans l'utilisation qu'en font certains médias. Les migrants de l'époque, c'était les Portugais.
Et vous écrivez à propos de cette migration, je vous cite, « Cette migration, bien que massive et déterminante pour l'économie française, est restée relativement invisible. Contrairement à d'autres vagues migratoires du XXe siècle, les Portugais ont été décrits lorsqu'ils l'étaient comme des travailleurs discrets, loyaux, peu revendicatifs et souvent assimilés au mythe du travailleur silencieux. Que pensez-vous de ce mythe ? »
Je pense qu'il a un vrai fondement. La réalité du travail du travailleur portugais, c'est de travailler, de faire, de pas forcément se plaindre, de pas forcément se syndicaliser d'ailleurs à l'époque, d'être dans une recherche d'amélioration de sa propre condition de vie, ça c'est certain, mais de le faire en étant le moins problématique possible, parce que je pense que dans l'esprit de beaucoup de Portugais, cet équilibre entre l'offre travail et le travail que eux proposaient pouvait se rompre à tout moment. Donc il y avait une volonté d'être parmi ceux qu'on souhaiterait garder, ceux qui, à travers la qualité travail, feraient que il y avait une signature portugaise à l'époque, d'ailleurs dont les nouvelles générations bénéficient encore aujourd'hui. Moi, j'ai été recruté, la personne qui m'a pour mon premier travail recruté m'a dit écoute, t'es portugais, donc t'as le sens du service.
Bon, super. Discrimination positive.
Ouais, c'était une discrimination positive, c'est assez drôle, parce que il me connaissait depuis 10 minutes, mais s'il part de ce principe-là, c'est pas moi qui vais le contredire. J'ai le sens du service, en effet, il y a pas de souci. Mais c'est pour en revenir à votre question, pardon. On a affaire à une discrétion qui, à l'époque, était vraiment une qualité, je le redis, parce qu'elle a permis aussi d'accélérer cette migration. Le fait d'être discret, on avait envie d'avoir des travailleurs portugais dans son activité. Alors, avec un angle, avec un prisme de 2026, moi, j'ai échangé avec des nouvelles générations. J'ai deux enfants, hein, Lucas et Hugo, qui ont 19 et 22 ans. On peut, avec un angle de 2026, on pourrait utiliser des termes d'exploitation ou ce genre de choses, mais c'était pas d'actualité à ce moment-là et c'était pas une préoccupation, ni pour les Portugais d'ailleurs, ni pour les employeurs. Il n'y avait pas cette volonté-là. C'est pas du tout le cas. Il y a des gens qui arrivaient pour travailler. On leur donnait du travail difficile, donc. C'était pas toujours très juste, on aurait pu leur donner aussi d'autres fonctions, mais c'est aussi une immigration, il faut pas l'oublier, qui arrive sans pour certains en tout cas, qui savaient à peine lire, le portugais, encore moins le français. Donc il y a eu tout un accompagnement nécessaire aussi. Donc bon, il y a un équilibre qui, à l'époque, s'est fait de cette manière-là et qui... dont il faut être fier aujourd'hui, je pense, hein, sans rentrer dans des débats. Est-ce que on aurait pu faire autrement? Oui, bien sûr. Est-ce que la terre d'accueil aurait pu accueillir différemment? La France aurait pu accueillir différemment? Sans doute. Mais la réalité, c'est que malgré tout, enfin, moi, je suis admiratif devant ces gens-là. Enfin, y a une déchirure qui a quitté le pays. Il y a un voyage qui est extrêmement difficile. Très souvent, malgré des accords entre la France et le Portugal. De manière clandestine, enfin, les voyages étaient clandestins pour la plupart. Et quand on arrive en France, on vient d'en parler, les conditions sont extrêmement difficiles. Et puis, bah, quelques années plus tard, on a des Portugais qui ont réussi dans leur vie. Il y a des Portugais qui ont eu une ascension sociale absolument incroyable. J'en parle dans mon livre en disant que certains ouvriers deviennent entrepreneurs et que ces entrepreneurs embauchent des gens qui sont pas que des Portugais non plus. Donc vous parliez de l'apport portugais apporte ça à la France et la France a permis aux Portugais de faire ça aussi. Donc on est sur, encore une fois, un équilibre assez cohérent, assez bien pensé, enfin naturellement bien pensé. Voilà.
Mais entrons dans un autre débat, ces qualificatifs de travailleurs discrets, loyaux, peu revendicatifs, ne sont-ils pas en soi des clichés qu'il faudrait aussi peut-être combattre? N'est-ce pas un peu simple d'associer le portugais à un travailleur discret, loyal, peu revendicatif et donc docile? Contrairement à une autre immigration peut-être qui l'ouvre plus.
Alors, sans doute, mais c'est mon point de vue, je reste persuadé que la majeure partie... La tendance générale de l'immigration portugaise était une immigration de travail qui venait pour travailler et, le cas échéant, dès que possible, repartir. Je le redis aussi. L'histoire montrera qu'il y en a pas tant que ça qui sont partis, parce que finalement le contexte a été bon. Et puis, on a des enfants, ils apprennent le français, ils vont à l'école, et puis, on repart plus. Il faut le comprendre comme quelque chose de très positif, cette discrétion-là. Quand j'écris une immigration discrète et courageuse, le discret n'est pas un défaut. Le discret est à l'époque une vraie qualité, parce qu'encore une fois, c'est ce qui a accéléré les choses en allant voir son patron et quelqu'un qui dit « mais s'il est comme toi, moi je le reprends tout de suite ». Alors évidemment, il n'est pas problématique, donc on rêve tous d'avoir des salariés non problématiques, encore aujourd'hui. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais cette discrétion-là, elle a évolué. En 2026, les Portugais sont peut-être un peu moins discrets. On a une ADN de discrétion. Moi, je fais partie d'une famille où, quand je fais quelque chose, je le fais. Je dis pas que je vais le faire avant. Et quand je l'ai fait, j'en parle pas pendant 10 ans parce que j'ai fait un truc. C'est pas ça. Mais en revanche, il y a des élus portugais. Il y a de très belles réussites économiques portugaises, artistiques. Également, vous êtes la preuve, si vous me le permettez, Monsieur Caramayo, on est aujourd'hui chez Radio Alpha, qui est une fenêtre du Portugal sur la France. Moi, j'ai des amis français, ou même étrangers, mais pas portugais, qui vous écoutent. La discrétion, elle a évolué, mais j'aime à dire qu'elle est quand même dans notre ADN. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien faire les choses, et puis une fois qu'elles sont faites, on est félicité ou on se fait critiquer, mais en tout cas, c'est fait. Voilà. Et moi, j'aime bien cette discrétion-là.
Et vous évoquiez justement Radio Alpha, alors parlons-en, mais effectivement, discrétion, courage, dignité sont des mots qui reviennent souvent dans ces 500 pages, dans ce travail où vous documentez l'émigration portugaise en France, on va en parler aussi. Mais donc, il y a un paragraphe dédié à la radio, et je vous cite, « La radio a joué un rôle central dans la création de liens entre migrants. Les stations comme Radio Alpha ou les programmes lusophones des radios locales permettaient d'informer, de créer du lien et de maintenir la langue et la culture portugaise. Ces émissions constituent aujourd'hui une source documentaire importante pour comprendre la vie culturelle et la vie sociale des communautés migrantes. » Racontez-nous, faites-moi ce plaisir, racontez-nous l'importance de Radio Alpha.
Alors, je tiens à préciser que quand j'ai écrit ce livre-là, je ne me doutais pas forcément que j'allais être invité en plus sur votre plateau, donc il n'y avait pas de main tendue ou quoi que ce soit, mais bien sûr que Radio Alpha, les radios lusitaniennes ou les radios portugaises présentes en France, lusophones, pardon, ont eu un rôle. Tout ce qui permettait de mettre en contact la communauté portugaise, de mettre en contact les Portugais les uns avec les autres, a un rôle, évidemment. Alors, il y a le rôle familial, il y a le rôle amical, il y a le rôle professionnel également. Mais les radios, c'est la musique, c'est la culture, c'est des points de rendez-vous, c'est la tradition qui est maintenue, c'est le lien avec le pays. Encore aujourd'hui, régulièrement, vous parlez de l'actualité portugaise, parce que les gens qui sont en France ont besoin de savoir ce qui se passe au... Enfin, je parle des Portugais de France, ont besoin de savoir ce qui se passe au pays, au Portugal. Donc, évidemment que les radios, et en particulier Radio Alpha, qui est, sans entrer dans le détail, qui est quand même une radio référence, est extrêmement importante. Dans la transmission, dans la communication, dans la... j'ai envie de dire dans l'apport culturel qu'il peut y avoir. Moi, mes parents écoutaient Radio Alpha. Mmh. Vous avez diffusé des musiques qui ont bercé ma jeunesse parce qu'ils vous écoutaient. Et à l'époque, on n'allait pas forcément acheter son disque ou on n'avait pas forcément. En revanche, on avait une radio. Donc, évidemment, il y a des repas de famille qui se sont faits avec des fonds. Radio Alpha ou d'autres, mais c'est évidemment très important. C'est un point de diffusion de la culture portugaise. C'est un point de ralliement aussi sur, encore une fois, des rendez-vous. Il y a des événements. Comment fêter Pâques quand on est portugais en France ? Bah, vous donnez des informations qui sont utiles. Mmh. Si on veut aller dans une église ou dans une autre, est-ce qu'il y a une association portugaise qui organise quelque chose de particulier ? Si on n'a pas les radios, on n'a pas, à l'époque, bien évidemment, la possibilité d'être informé de la même manière.
Et ce livre est une vaste documentation de 500 pages sur la présence portugaise en France. Ce livre qui s'appelle Fernando Ferreira, Les Portugais de France, histoire d'une migration discrète et courageuse. Et vous écrivez que documenter les migrations portugaises, c'est, je vous cite, documenter une forme de génie social. Que voulez-vous dire par cette expression ?
Quand le modèle est bon, quand les choses ont bien marché, c'est un génie social. Personne s'en est occupé et finalement, ça s'est bien goupillé. Moi, je trouve ça formidable. Encore une fois, je suis admiratif devant ça. Comment, sans avoir de grands leaders syndicalistes ou de personnes qui auraient pris un moment la main sur la communauté portugaise en France en disant c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse et pas d'une autre manière, comment naturellement les gens venus du Portugal dans un pays qui leur est complètement inconnu, dont ils ne parlent pas la langue, comment ces gens-là arrivent à porter des valeurs qui sont assez communes, le travail, la famille, le lien au pays. C'est formidable. Donc, génie social, parce que, sans qu'on dise aux Portugais de l'époque comment faire, ils ont su faire. Donc, c'est des génies, c'est du génie social. Voilà ce que j'ai voulu dire.
Vous le disiez à l'instant, la communauté portugaise en France n'a jamais eu de leader, n'a jamais eu de syndicat représentatif, d'une institution représentative de la communauté. Et justement, certains historiens, certains intellectuels de la communauté en France disent, à cause de cela, qu'il n'y a pas une communauté portugaise en France, mais des communautés. Justement, on ne peut pas parler d'une seule communauté, d'un seul bloc, pour la simple et bonne raison que, en fait, les Portugais en France ne sont pas structurés, comme on peut parler, par exemple, de la communauté juive en France, qui est structurée, le CRIF existe, le Conseil représentatif des institutions juives de France, il y a tout plein d'institutions qui sont là pour incarner, pour représenter la communauté juive de France. Bon, ils sont 500 000, a priori, on est 1,5 million, ce serait plus difficile pour les Portugais, mais effectivement, les Portugais n'ont pas ce type d'institution qui les représente comme un bloc, comme une union, comme un seul homme. Donc, seriez-vous d'accord pour parler de plusieurs communautés portugaises en France et pas forcément d'en parler comme un seul bloc ?
Pas forcément. Ça reste que mon point de vue, encore une fois, mais pas forcément. Moi, il y a des axes d'amélioration. La communauté portugaise, elle n'est pas arc-boutée, elle n'est pas figée. Il y a des axes d'évolution, il y a des réflexions à mener. Et le point que vous soulignez en est un. Comment organiser cette pensée globale et la transformer en quelque chose qui contribuerait à aider et à continuer à développer cette communauté portugaise en France ou dans d'autres pays? Moi, je fais partie des personnes qui considèrent que la communauté portugaise, elle existe. Moi, je suis en France, ami avec des gens qui sont du Nord au Portugal, comme ils sont du Sud au Portugal. Certains sont pour des clubs de foot que moi, je supporte pas. Et moi, je suis pour un club de foot que eux ne supportent pas non plus.
Vous êtes pour quel club de foot ?
Je suis pour Porto.
D'accord.
Mon épouse est pour Benfica.
Très bien, voilà.
Donc, on est très ouverts. Mes enfants sont pour Porto. J'ai des amis, que je salue d'ailleurs, qui sont pour le Sporting. Et il y en a d'autres qui sont pour Braga. Enfin, je vais pas faire tous les clubs du Portugal. Mais tout ça pour vous dire qu'on est vraiment sur des gens très différents, qui ont une manière de penser très différente, mais qui ont quand même un ralliement commun. La communauté portugaise, pour moi, elle existe. Alors ensuite, si elle est subdivisée, Peut-être, j'ai moins pas forcément le recul pour pouvoir répondre précisément à cette question. Est-ce qu'il faut aller vers un organe de représentation de la communauté portugaise en France ? Sans doute. Sans doute, c'est peut-être une des conséquences de la discrétion portugaise de ne pas y avoir forcément pensé avant et de ne pas forcément l'avoir structuré avant. C'est peut-être une des trajectoires qu'il faut prendre. Parce que ce qui est certain, c'est que pour qu'une communauté continue à vivre, à continuer à exister, il faut qu'elle soit vivante. Donc s'il y a des axes d'amélioration, il faut les mettre en œuvre, bien évidemment.
C'est aussi peut-être c'est la question de l'œuf ou de la poule, c'est-à-dire que c'est peut-être aussi une volonté publique de justement adosser aux Portugais cette image de travailleur, on le disait, respectueux, docile, peu revendicatif. Comme ça, ils ne s'organisent pas non plus comme un bloc communautaire et puis ils s'intègrent plus facilement dans le tissu social français.
Moi, je suis né en France, j'ai 53 ans, je suis né en France et je revendique mon côté portugais. Alors imaginez ceux qui ont connu le Portugal et qui sont venus ensuite.
Bien sûr.
Mais vraiment, je connais personne, mais vraiment personne, qui, étant d'origine portugaise, ne le met pas en avant. Pas parce que c'est une qualité, mais c'est parce que c'est son ADN et qu'il a envie de le dire.
Et c'est peut-être même l'inverse, et là c'est peut-être un échec de la France, puisque beaucoup, dans votre cas, dans le mien, d'enfants nés en France de parents portugais, se disent à 100% portugais et plus du tout français.
Alors, ce rejet existe, je l'ai aussi constaté. Moi, dans mon cas, je me sens profondément portugais et pleinement français. Il n'y a rien de contradictoire à dire ça. J'insiste, profondément portugais parce que c'est mes origines, mes racines. J'ai un mode opératoire qui est conditionné par mon enfance, passé avec... je suis fils d'immigré, donc deux parents qui, à la maison, parlaient portugais. C'est pour ça que je le parle un petit peu aujourd'hui quand même. Et en même temps, j'ai été à l'école française, donc j'avais... plus d'amis français que de portugais. Moi, j'étais pas dans un bastion portugais spécifiquement. J'ai grandi à Levallois-Perret. J'ai été vraiment à la croisée de ces chemins-là. Mais en effet, c'est peut-être aussi un échec français d'entendre des gens nés sur le sol français qui ont vécu en France toute leur vie dire je suis portugais et ne pas dire qu'ils sont français. Mais la réalité de tout ça, c'est qu'on peut être les deux. Et que la réalité, c'est l'équilibre à trouver. Par moment, les aspects portugais peuvent être fatigants, et puis par moment, on se sent un peu plus français. Et l'inverse est vrai aussi. Donc, c'est toute la difficulté, d'ailleurs, de cette population des Portugais de France. Quand on va au Portugal, on est français, et quand on est en France, on est portugais. Moi, je suis né en France, j'ai 53 ans, j'ai fait toute ma scolarité en France, mais je m'appelle Fernando Ferreira. Donc, est-ce que vous pensez qu'on me demande d'où je viens ?
Oui, vous ne pouvez pas y échapper.
Oui, c'est obligatoire. Alors, même si mes enfants s'appellent Lucas et Hugo, qui sont des prénoms un peu plus standardisés français, qui sont en même temps, c'est un choix d'ailleurs de mon épouse et de moi, d'avoir des prénoms lisibles dans les deux pays, dans les deux langues. Ils s'appellent quand même Ferreira. Donc, à un moment ou à un autre, on leur dit « t'es portugais ». Et la réponse est « oui ». Voilà, et vraiment, les deux éléments peuvent cohabiter. Moi, je suis toujours un peu déçu quand j'entends des gens nés en France dire « je suis portugais, je ne suis pas français ». Il y a un peu des deux. Enfin, ce n'est pas aussi catégorique que ça, ce n'est pas possible. Il a des marqueurs français, il ne s'en rend peut-être pas compte. Et son cœur est peut-être portugais, ça ne se commande pas, il n'y a pas de doute à avoir. Mais il y a quand même des marqueurs français. On n'est pas complètement portugais. On est né en France. Enfin, moi, mon école, je l'ai fait en France. Quoi.
La preuve en est qu'on s'exprime en ce moment même en français sur Radio Alpha. Même si Radio Alpha est une radio française d'expression portugaise, mais donc ça veut bien dire quelque chose. Bien sûr. Puis vous parlez à quelqu'un qui s'appelle Didier. Donc,
il y a une vague de prénoms.
Pas faire beaucoup plus français.
Pardonnez-moi, mais j'ai beaucoup d'amis, d'ailleurs, qui sont portugais, mais qui s'appellent François, par exemple. Vous voyez, c'est pas très portugais comme prénom. Didier, pas très portugais comme prénom, en effet. Mais il y a cette volonté, il y a cette double culture qui existe, mais elle peut coexister, hein, il n'y a pas de cohabiter, il n'y a absolument aucun souci là-dessus.
Fernando Ferreira, vous êtes-vous senti légitime pour écrire ce livre ? Puisque c'est à n'en point douter un livre d'archives, de recherches historiques, de témoignages, en cela c'est un livre d'hommage aussi à la présence portugaise en France, mais vous n'êtes pas historien. Avez-vous ressenti, à un moment de l'écriture de ce livre, un syndrome de l'imposteur, par exemple ?
Non. Je vais vous dire pourquoi. L'immigration, moi, depuis tout petit, j'en entends parler. Mes parents sont, encore une fois, des immigrés. Et l'objectif, il n'est pas historique. L'objectif, il n'est pas, d'ailleurs, commercial, économique ou quoi que ce soit. Il est de rendre hommage à ces gens-là. Et pourquoi j'ai envie de rendre hommage à ces gens-là ? Parce que j'en connais. J'en connais beaucoup. Et que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je vais le redire, je suis admiratif de ces parcours-là. Alors, humblement, vous avez raison de le dire, moi je suis personne, je suis pas un historien, je suis pas...
Ah, j'ai pas dit que vous êtes...
Non, j'ai pas dit
que vous êtes personne.
Non, il y a pas de souci. Mais ce que je veux vous dire, c'est que...
J'ai rappelé que vous n'étiez pas historien, et souvent ce genre de travail naît des mains d'un historien.
Eh ben, j'aurais aimé qu'il le fasse. Enfin, il y a d'autres ouvrages d'ailleurs qui existent, hein, bien évidemment. Moi, je l'ai fait comme je l'ai senti, avec ma sensibilité, mon angle de recherche, et avec un objectif qui était de rendre hommage et de faire en sorte, humblement, parce que c'est pas mon livre qui va éviter ça, mais de faire en sorte que on n'arrête pas de raconter ces histoires-là. Il faut continuer à les raconter, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le redire maintenant. Quand on arrête de raconter les histoires finissent par disparaître. Et moi, je fais partie de ces gens qui sont persuadés que l'immigration portugaise est un bout important de l'histoire du Portugal. C'est dans l'histoire du Portugal. Alors évidemment, il y a plein d'autres pages très importantes dans l'histoire du Portugal, mais l'immigration portugaise est dans l'histoire du Portugal, fait partie de l'histoire du Portugal.
De la même façon que dans l'histoire de France s'inscrit la présence portugaise et que c'est absolument indissociable. Dans votre livre, vous dédiez une partie très intéressante aux accords franco-portugais de 1963 à 1971. Vous leur dédiez un chapitre entier. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces accords?
Je les connaissais pas, moi. Vous voyez, moi j'ai tellement entendu l'histoire, on me disait qu'on est venu de manière clandestine, que quand j'ai appris...
Comme on dit en portugais.
Oui, salto, exactement. Quand j'ai appris qu'il y avait des accords, j'ai été surpris. Alors ces accords, ils avaient un objectif qui était d'officialiser quelque chose qui existait déjà. Enfin, je veux dire, les Portugais n'ont pas attendu qu'il y ait ces accords en 63 jusqu'aux années 70 pour venir en France. Et la France n'a pas attendu qu'il y ait ces accords pour accueillir les Portugais. Sauf que, je répète, qu'il y avait à l'époque une dictature, qu'il y avait une volonté d'échange entre deux pays, et que ces accords sont nés plus d'une intention politique d'une réalité, j'allais dire économique, puisque de toute manière, ce qui était prévu dans ces accords était un nombre de migrants portugais, d'émigrés portugais ayant le droit, de manière officielle, d'aller au Portugal, d'aller en France, pardon. Et ce nombre, vous pouvez allègrement le multiplier par 10, parce que c'était la fréquence qui était le nombre de départs et le nombre d'arrivées en France. Donc, ils ont existé. C'est deux gouvernements qui, face à une réalité, ont institutionnalisé un petit peu les choses. Mais ils étaient complètement débordés, que ce soit par la réalité de l'immigration portugaise.
Et alors, vous dédiez toute une partie, j'ai adoré aussi, aux femmes portugaises.
Bien sûr. Alors, j'allais dire,
ce qui est plutôt rare dans les ouvrages d'histoire, et puis dans les ouvrages d'histoire parlant de l'immigration portugaise, de la présence portugaise en France, on a rarement 10, 15, 20 pages dédiées aux femmes.
Alors, moi, j'ai voulu le faire parce que, en étant très, 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 très direct, on parle beaucoup du travail difficile, les hommes ont accompli, la construction, la réussite. On voit dans l'inconscient de tout le monde, on voit les grands chantiers avec les Portugais en train de travailler. Mais on oublie de dire que pendant qu'il est en train de travailler, bah, il y a peut-être son épouse, il y a sans doute son épouse, qui est en train de s'occuper de le nourrir, de lui permettre d'avoir des affaires propres pour aller travailler le lendemain. Ça, c'est le premier rôle, un peu sexiste à l'époque, mais encore une fois, à l'époque, la question se posait pas de la même manière qu'aujourd'hui. Il faut pas avoir le regard de 2026 pour cette époque-là. Mais ce qui permettait à l'homme de travailler dans la difficulté, avec le courage qui était le sien, c'était aussi d'avoir une épouse qui assurait une certaine logistique, il faut être honnête. Et puis sont arrivés les enfants. Mariage, enfants... Scolarité des enfants, j'en parle dans le livre. La personne qui fait le lien entre les enfants qu'on met à l'école et la famille portugaise, c'est en général la mère. Le père, il va très peu. La maman, enfin, la personne qui, dans le foyer familial, vérifie sans pouvoir trop contrôler, parce qu'on n'a pas le niveau de français pour pouvoir le faire, mais que les devoirs sont faits, c'est en général la maman.
Et la personne qui, dans le couple, apprend souvent plus vite le français que l'autre,
bien sûr,
c'est la femme,
c'est la mère. Femme. Alors, pour une raison qui peut aussi être donnée, quand vous travaillez entouré de 15 autres Portugais, la langue du travail, la langue de travail sur un chantier, c'est le portugais.
Voilà.
En revanche, quand vous êtes, parce que ça c'est un autre aspect des femmes, que vous commencez à travailler, que vous contribuez aussi financièrement au foyer, vous êtes femme de ménage, votre patronne elle est française. La donneur d'ordre est française et vous parle français. Donc vous apprenez plus vite le français que monsieur qui est sur un chantier entouré de 14 collègues portugais qui parlent portugais toute la journée. Donc ce lien-là, cette trajectoire-là, le rôle féminin est extrêmement important et c'est vrai qu'il n'est pas toujours mis en avant. Donc moi j'ai voulu en parler de manière assez bon, pas très développé, mais de manière assez présente dans le livre. Oui.
Et donc, cette question et bien d'autres sont abordées dans cet extraordinaire ouvrage qui s'appelle, je le rappelle, « Les Portugais de France, histoire d'une migration discrète et courageuse », publié aux éditions Colibri. C'est écrit par Fernando Ferreira. Où peut-on acheter le livre ?
Alors, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Si vous tapez « Les Portugais de France », il sortira tout de suite. Et puis, directement sur le site colibri.com, c'est 2O2LIBRI.com.
Merci beaucoup, Fernando.
Merci à vous pour l'invitation.